La majorité au pouvoir depuis 2010, celle de Viktor Orban, a modifié le système électoral. Celui-ci reste un système mixte. Donc une partie des 199 sièges sera pourvue au scrutin majoritaire. Scrutin majoritaire à un tour désormais et non plus à deux tours comme avant. L'autre partie étant pourvue au scrutin proportionnel. Et il faut ajouter également qu'il n'y a plus d'exigence quant au taux de participation. Alors, l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que, précisément, la majorité a souhaité, au fond, aller dans le sens d'une plus grande bipolarisation des forces politiques.
Et ce, alors que l'opposition menée par les socialistes est très affaiblie, 20% d'intention de vote contre 50% pour le parti des conservateurs. Alors peut-être, avant de revenir sur la figure, la popularité de Viktor Orban, pourquoi est-ce que la gauche est si affaiblie aujourd'hui?
Je crois que l'opposition a été sonnée par les précédentes législatives, celle de 2010, moins de 20% des voix. Alors que précédemment, si on remonte, ils avaient obtenu plus de 40% des voix en 2006 et elle a eu, à mon avis, du mal à se remettre. Également, il faut dire aussi qu'elle est divisée, cette opposition de gauche. Le Parti socialiste hongrois, dans la perspective des élections de dimanche prochain, a pu faire des listes communes avec ses alliés. Mais enfin, on sait très bien que dans un système majoritaire, plus on va à la bataille unie, plus on a de chances de remporter la victoire. J'ajouterai un autre facteur, la majorité au pouvoir, celle de Viktor Orban, occupe tout le terrain politique. Il y a eu une certaine mainmise de la majorité actuellement au pouvoir sur l'appareil administratif d'État.
Comme par exemple la possibilité pour l'exécutif de nommer les membres de la Cour constitutionnelle, on va en reparler, mais il y a aussi cette incroyable popularité de Viktor Orban.
Sa figure est très représentative d'une extrême personnalisation du pouvoir. Et n'oublions pas, dans la Hongrie d'aujourd'hui, le système politique est un système de type parlementaire dans lequel le pouvoir exécutif est principalement concentré dans les mains du gouvernement et de son chef. Et comme par ailleurs, Viktor Orban a incontestablement une personnalité, pourrait dire charismatique, donc sa figure polarise complètement le débat politique à tel point qu'on a le sentiment que ces élections législatives se transforme en sorte d'élection plébiscitaire pour ou contre la majorité au pouvoir, mais surtout pour ou contre Viktor Orban. Et finalement, l'enjeu de ces élections, au fond, c'est de savoir si cette majorité va conserver les deux tiers des sièges à l'Assemblée nationale.
Sur le fond, c'est aussi un politique qui est assez anti-mondialisation et assez nationaliste. Est-ce que c'est ça qui fait sa force?
La politique qui a été celle de la majorité au pouvoir depuis 2010 a pris des mesures assez souvent, paraissent aller en sens contraire à certaines valeurs portées par l'Union européenne et ses États membres en général. Je pense en particulier à un point sur le soutien que la République de Hongrie doit apporter aux communautés hongroises vivant à l'extérieur du territoire de la Hongrie, dans les États voisins que sont la Roumanie, la Slovaquie et la Serbie aussi. Donc oui, il y a eu une certaine radicalisation et cette radicalisation semble bien être en phase avec les aspirations d'une majorité de la société hongroise aujourd'hui.
La question de l'identité, des valeurs chrétiennes, de la famille traditionnelle, tout ça finalement a pris le pas dans la campagne électorale et ces dernières années par rapport à la crise économique. Enfin, en tout cas, c'est notre sentiment.
Oui, mais je crois que cela est lié à l'histoire de la Hongrie. Il est quand même significatif qu'en Hongrie aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour dire qu'il faudrait remettre en cause, il faudrait revenir du moins, sur le fameux traité de Trianon de 1920 qui avait abouti à réduire des deux tiers, ce fut un traumatisme, le territoire de la Hongrie. Et donc, vous savez, en politique, il y a des phénomènes de longue durée et je crois que cette histoire, comment dirais-je, explique aujourd'hui certaines prises de position et cette peut-être survalorisation de la politique par rapport à l'économique, alors qu'on a le sentiment qu'au niveau de l'Union européenne et de la plupart des États membres, ce serait peut-être l'inverse.